Merci Antoine. On vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour le journal au complet. Bonjour à tous, une grande table américaine jusqu'à 14h aujourd'hui. Un an après l'élection de Donald Trump, comment se porte la démocratie américaine dans la bataille des images et des idées? Quelle conception les chercheurs, les écrivains et les artistes se font-ils de leur rôle aujourd'hui? Quel premier bilan tiré de ces premiers mois de présidence Trump? Passeurs, pacificateurs, agitateurs, sonnés par la défaite du camp démocrate ou engagés dans la riposte, nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui font la vie culturelle et universitaire ici à Chicago, où France Culture a posé ses micros. Capitale économique et artistique du Midwest, phare de l'architecture contemporaine du pays, ville dont l'image est associée à celle de l'ancien couple présidentiel, les Obama, qui ont lancé la semaine dernière le premier sommet citoyen de leur fondation. C'est aussi ici que se tient le Festival des idées, le Chicago Humanities, jusqu'au 12 novembre. De tout cela, on vous parle jusqu'à 14h, à écouter en direct sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Il y a certains bâtiments à Chicago, certainement les bâtiments de Louis Sullivan, qui me rendent heureux. Mais pour la plupart, Chicago n'est pas une ville qui peut vraiment changer vos sentiments, comme c'est le cas pour New York. Lorsque je suis déprimé et je suis à Chicago, New York me prend hors de moi-même et me met ailleurs. Chicago est comme un miroir imparfait. Donc, si vous ressentez un certain sentiment à Chicago, Chicago va amplifier ce sentiment. Si vous êtes déprimé, vous allez vous sentir encore plus déprimé à Chicago. Eh bien, je ne sais pas vraiment pourquoi Chicago existe encore. Je ne sais pas ce qui soutient la ville. Nous n'avons pas de grandes publications, nous n'avons pas beaucoup d'industries. Je ne sais pas si c'est peut-être le secteur financier ou peut-être le tourisme. Mais nous ne sommes pas les premiers dans n'importe quel domaine.
Et vous, dans quel mood êtes-vous? Ambiance pluvieuse ici à Chicago, une ville qui ne cesse de s'étendre, de s'agrandir et donc de se reconstruire. À l'avant-garde de tous les grands mouvements architecturaux américains, ces gratte-ciels rivalisent de style. Étudiante, Monica Chada a économisé pour aller boire un coup en haut de la John Hancock Tower. Aujourd'hui, architecte en vogue, elle voit la ville d'en haut, rencontre en apesanteur.
Welcome to the Signature Room. The restaurant Chicago looks up to. The Signature Lounge on the 96th floor lets you enjoy cocktails and appetizers with sweeping views of the city.
Alors, on est en centre-ville ici à John Hancock, mais on est du côté nord du centre-ville. Alors, on voit vraiment la ville entière parce que à l'est, on a la lac, ça juste continue à l'horizon. On voit seulement la lac, on voit complètement l'eau. Mais quand on regarde vers le sud, on voit vraiment le downtown entier. On voit les édifices importants comme ici à John Hancock où on est. On voit Marina City Tower qui est de Bertrand Goldberg. On peut voir un bout travail de Jeannie Gang. On voit le Grant Park. On voit vraiment le centre. Le centre de ville est vraiment tight. C'est vraiment
très dense.
Très dense. Et d'où on est à un moment, on voit vraiment la densité. On voit les bureaux, on voit les appartements. Et je crois un peu plus tard, quand on marche un peu, on descend, on va voir aussi les personnes. Alors d'ici, on voit vraiment la densité et la structure et la force de du ville.
Est-ce que d'ici, vous voyez aussi les différents courants architecturaux qui ont vraiment traversé la ville, et notamment au XXe siècle? Est-ce que vous voyez déjà, est-ce que tout est un peu représenté là?
Oui, c'est vraiment un peu représenté. Tout, presque en dessous de nous, si on est juste au bord de la face du vitrine, on peut le voir. C'est il y a deux édifices qu'on avait le feu en 1871 qui ont survécu.
Le grand incendie qui a dévasté la ville.
Oui, ouais. Alors ceux qui ont survécu. Puis, à sud de nous, on voit tous les différents moments en temps. Parce que c'est ici à Chicago qu'on a fabriqué les édifices les plus hauts à un moment. La technologie a changé ici à John Hancock. La structure de l'édifice est complètement remarquable au moment que c'était construit. Et c'est comme ça d'autres édifices qu'on voit d'ici. On a toute l'histoire de l'architecture de Chicago, mais on a aussi l'histoire de fabriquer la densité. Skidmore, Owings Merrill, d'autres bureaux comme ça ont fait un legacy ici qui continue tout autour des États-Unis et tout autour du monde. Mais alors, on descend l'ascenseur. Tu le sens dans tes oreilles parce qu'on était si haut. On était au 95e et 96e étage du John Hancock.
Thanks again for visiting the signature room. And come back soon.
Créateur du label Acme, père de Jimmy Corrigan, son double graphique qu'il a révélé au grand public, et de la meilleure abeille du monde aussi, Branford. Chris Ware butine comme son abeille et puise dans la Windy City, structure et décor de ses romans graphiques, dont le dernier paru en France, c'est Building Stories, des histoires en construction, on l'a rencontré.
On ne peut pas tromper les gens ici. Il y a un peu de prétention. Mais elle est différente, vraiment. Je ne sais pas comment le dire exactement. C'est qu'il y a une certaine humilité ici. Et Chicago est devenu vraiment le fond de tout ce que j'écris. Il y a un peu d'isolation qu'on ressent pendant l'hiver, car bien sûr, il neige pendant 6 mois, et c'est vraiment bien pour un dessinateur d'être un peu isolé.
Butiner, est-ce que le mot vous correspond bien, Chris Ware, comme votre abeille? Est-ce que vous piquez des petits éléments un peu partout autour de vous, dans ce que vous voyez? Et vous pollinisez ces idées ensuite, vous les mettez ensemble dans vos romans graphiques?
C'est une bonne manière d'y penser. Je n'ai jamais pensé à la pollinisation, en fait. Mais je pense que tout écrivain prend des éléments de ses expériences, de sa mémoire, et les rassemble d'une manière qui est vraiment spécifique à sa propre expérience. Et les dessinateurs ont la particularité de mettre ensemble des éléments et de les voir sur une page devant lui en écrivant et ainsi écrire une histoire. Je n'écris pas mes histoires avant, je les écris en dessinant. Et c'est comme ça que je découvre la structure de mes mémoires et je laisse cette mémoire déterminer toute la structure de l'histoire, en fait, si c'est logique.
Vous en faites votre miel, hein? C'est ce qu'on dit aussi en français. Chris Ware, on est à Chicago.
Oui, c'est une métaphore très puissante, là. Je ne dirais pas que c'est du miel, je dirais plutôt que c'est un peu de fumier. Des ordures, quoi.
Dans vos Building Stories, Chris Ware, on a redécouvert le travail d'un des précurseurs de l'architecture américaine moderne, Louis Sullivan, pour lequel vous avez réalisé la scénographie d'une exposition au Art Institute de Chicago. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces architectes américains qui ont beaucoup compté pour vous et pour la ville?
En fait, l'exposition était au Chicago Cultural Center et l'exposition était gérée par un de mes plus grands amis, qui est un historien de Chicago. En tant qu'enfant, il adorait les bâtiments de Louis Sullivan. Et il partait de chez lui, dans le nord de Chicago. Il venait au centre pour voir ces bâtiments. Il ressentait une certaine personnalité dans ces bâtiments. Et c'était une époque où on détruisait les bâtiments pour construire de nouveaux gratte-ciel modernes. Et il voulait vraiment protéger ces bâtiments. Donc il était la lance de fer du mouvement des préservationnistes. Il a rencontré un monsieur, Richard Nickel, qui a été tué lorsque un de ces bâtiments de Louis Sullivan est tombé. Sullivan est sans doute l'architecte américain le plus important, car il était le premier à vraiment synthétiser l'esprit américain dans sa structure. Et il a créé une vraie poésie dans son architecture. Il était le premier à utiliser les matériaux d'une manière fluide. Et ses bâtiments semblaient pousser du sol comme une plante. Son architecture n'était pas tout à fait basée sur l'architecture européenne avec toutes ses formes, mais plutôt elle était basée sur ce qui développait à l'époque une certaine conscience américaine. Ensuite, Frank Lloyd Wright, il travaillait à Chicago avant de partir pour faire sa carrière. Beaucoup de ces histoires me semblent, eh bien, il me semble que ces histoires ont été réécrites. Vous pouvez voir que Frank Lloyd Wright s'inspirait de l'art japonais et il regardait ce qui se passait en Allemagne, en Italie à l'époque. Donc il y avait beaucoup d'échanges. Et je pense que ces architectes faisaient semblant de ne pas regarder les uns les autres, mais vraiment, ils se regardaient de près.
Se regarder de près, de Louis Sullivan au Bauhaus, chacun son style. Très active sur la scène artistique de Chicago, la plasticienne Barbara Kasten, elle réalise des compositions architecturales dans son atelier du Mana Contemporary à Pilsen, le quartier mexicain de la ville. Et elle témoigne au micro de France Culture de la vitalité des arts visuels dans la troisième ville des États-Unis.
Je pense que je suis parti lorsque j'étais adolescente et donc les influences viennent d'un plus jeune âge, d'expérience lorsque je vivais à Chicago, que j'étais entouré dans un environnement urbain par des gratte-ciels. Et lorsque j'ai grandi ici, je n'avais pas réalisé quoi que ce soit à ce niveau. Maintenant, étant de retour depuis 1998, étant bien plus consciente des styles d'architecture, que je peux voir en fait comment ça a joué pour divers immeubles ici dans la ville. Le Bauhaus a toujours été très important pour moi du fait des diverses disciplines et des démarches multidisciplinaires dans le domaine artistique. À Chicago, cette multiplicité de styles vient des idées du Bauhaus également. Mais Mies van der Rohe, qui est un grand architecte moderniste, a laissé son empreinte ici à Chicago. Et je trouve cela inspirant de voir l'angularité de ses styles, le verre qu'il utilise, le type d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Tout cela, ce sont des idées que j'utilise dans ma propre pratique. Et donc, je pense que c'est là le type d'observation que j'ai relevé à propos d'un architecte comme Mies, et je pense que j'ai traduit cela dans mon propre travail. Et mon travail est abstrait, donc ce n'est pas cet échange de réalité avec des abstractions. En fait, c'est plutôt un échange d'intérieur et d'extérieur, d'espace intérieur et extérieur, qui, je le pense, c'est un concept très architectural. Mon travail ne saisit pas le monde extérieur. Même si j'adore l'architecture, je n'utilise pas un environnement externe où je photographie l'architecture. En fait, j'utilise les principes fondamentaux de l'architecture ainsi que les principes élémentaires de l'architecture et de l'éclairage. C'est difficile d'expliquer ce que je fais, de donner un nom. En fait, c'est une combinaison de trois choses. La photographie, c'est l'étiquette qu'on met dessus du fait de cette présentation.
Chicago, qui accueille en ce moment aussi la 12e Biennale d'architecture jusqu'au 7 janvier sur le thème « Make New History », fabriquer une nouvelle histoire. On retrouve tout de suite la fondatrice de l'agence Civic Projects au Musée d'art contemporain de Chicago, le MCA.
C'est assez intéressant. Alors, c'est la deuxième fois qu'on a une biennale à Chicago d'architecture. Et c'est vraiment, ça s'appelle Make New History. Voilà. Et c'est vraiment l'idée de comment l'histoire contemporaine, peut-être on dit, du courant, comment ça change, comment ça s'implique, comment les solutions se font mix. Alors, ils ont vraiment demandé à beaucoup de jeunes architectes, de jeunes urbanistes, de vraiment penser un peu. Parce qu'on est ici dans une ville qui est saturée d'histoire. Comme quand quelqu'un parle de l'architecture à Chicago, on pense vraiment à l'histoire. On pense qu'il y avait un feu, il y avait des édifices, il y avait des grands bâtiments. On pense de tout ce qu'on a vu quand on était en haut. On pense vraiment du ville. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment, à un moment encore, la définition de la nouvelle architecture ou le changement. Alors, les projets maintenant se demandent comment est-ce qu'on s'implique dans les quartiers.
Alors parlons de ce grand projet qui fait débat aujourd'hui à Chicago, ce projet qui est porté par la Fondation Obama, la création d'un centre culturel dans le Jackson Park qui est dans le South Side. Vous y êtes impliqués, vous participez à ce projet. Les habitants du quartier ont demandé à être directement associés, à pouvoir avoir leur mot à dire sur ce qui va se faire, parce qu'il y a toujours la peur avec ce type de grand projet qui coûte cher, qui sont certes des projets philanthropes, mais que ça ait un effet de, on dit gentrification sur le quartier, c'est-à-dire que ça monte la cote du quartier et que les habitants doivent en partir parce qu'ils n'auraient plus les moyens d'être dans un quartier qui aurait pris de la valeur. Comment vous faites à travers votre agence, à travers tout ce que vous avez fondé pour permettre cette discussion avec les habitants du quartier sur un projet comme celui-ci?
Alors, c'est vraiment intéressant. Ça fait déjà parce que le projet, c'est 2021, à la fin de 2021, va être quand l'édifice va être complet. Et ce qui s'arrive à un moment est que dès le début, la fondation parle avec les gens. Mais il y avait, la fondation était très claire que c'était important que ce soit un édifice qui impacte la communauté et qui se situe dans la communauté. Ici à Chicago, avec Saul Alinsky, avec le mouvement d'engagement, ce que le président Obama fait partie du mouvement d'engagement ici à Chicago, c'est une place où ça a commencé. L'engagement civique a vraiment l'histoire très deep, très, très profonde et importante ici à Chicago. Et je pense que le but est de le célébrer d'une manière que tout le monde à l'engagement civique. Là, on travaille avec la communauté pour sortir des idées. On travaille ensemble. Et c'est vraiment, c'est ça peut-être le changement un peu dont tu parles. C'est pas des projets qui sont complètement individualistiques. Ils sont des projets qui font partie de l'histoire, partie du processus et faire partie du communauté. Il y a une expression que Obama a utilisée et d'autres personnes parlent, « I stand on the shoulders of others ». Je ne sais pas si je peux faire la traduction propre, mais l'idée qu'on est supporté par les gens qui viennent avant nous.
I'm gone, praise him till I'm gone. I'm gone, praise him till I'm gone. When the blazes go up,
the blessings come down. When the praises go up, the blessings come down. It seems like blessings keep falling in my lap. It seems like blessings keep falling in my lap. I don't make songs for free, I make them for freedom. Don't believe in kings, believe in the kingdom. Chisel me into stone prayer, whistle me into song air. Dying laughing with Krillin, saying something about blonde hair. Jesus, black life ain't matter. I know I talked to his daddy. Say you the man of the house now. Look out for your family. He has ordered my steps, gave me a sword with a crest, and gave Donnie a trumpet in case I get shortness of breath. Don't be mad.
I'm gone. Praise him till I'm gone. When the praises go up,
good God,
the blessings come down.
Good God,
when the praises go up,
oh, good God,
the blessings come down.
The blessings come down.
When the praises go up.
France Culture, émission spéciale ici à Chicago jusqu'à midi et demi, puis deuxième partie de 13h à 14h avec nos invités Blessings, la bénédiction de Chance the Rapper, l'enfant de Chicago, Chancellor Bennett, 24 ans seulement et déjà Grammy Awards du meilleur album rap de l'année avec Coloring Book.
Welcome to Chicago.
La grande table en direct de Chicago.
It's terrible what's going on in Chicago.
Olivia Gesbert.
On termine cette rencontre avec le Chicago artistique dans l'atelier du peintre Kerry James Marshall dans le South Side de Chicago. 35 ans de création regroupés en ce moment dans une rétrospective présentée d'abord ici à Chicago, puis au MoMA de New York, puis au MoCA de Los Angeles. À 62 ans, le peintre fait figure de patriarche et de modèle pour la jeune scène artistique.
Donc, nous sommes ici dans mon studio dans le quartier Brownsville à Chicago, dans le sud de la ville. Et donc, dans le sud de Chicago, la plus grande transformation qu'on a assise, c'était la démolition des grands bâtiments de logements publics. Et il y avait beaucoup de personnes qui vivaient dans ces bâtiments qui ont dû aller vivre ailleurs. Et donc, à ce moment-là, on a une grande population qui ne vit plus dans ce quartier et qui a créé des changements. Mais quand on parle de l'économie qui est nécessaire pour servir de moteur pour le développement, pour de nouvelles entreprises, il n'y a pas de comparaison entre le quartier du South Loop et le centre-ville et notre quartier. On peut voir une démarcation bien prononcée entre là où l'argent existe et là où ça n'existe pas. Et donc, je ne pense pas que ces développements au centre-ville ont changé ce qui se passe ici dans notre quartier.
En ce moment, Kerry James Marshall, vous avez l'une de votre plus grande fresque, une grande peinture murale qui est installée à Chicago, dans le cadre du Chicago Cultural Center. Vous avez pensé cette énorme fresque en hommage à 20 femmes de la ville, 20 figures essentielles de la vie culturelle de Chicago. Qui sont-elles? Qui sont ces femmes que vous avez voulu honorer?
Les femmes de cette fresque sont 20 femmes qui ont joué un rôle clé dans le développement de certaines institutions culturelles à Chicago au fil du temps. Par exemple, il y a Margaret Burroughs, qui était fondatrice du Musée de sable, qui se trouve sur la rue Cottage Grove, en face de l'Université de Chicago. Ce sont des icônes culturelles aussi, comme Gwendolyn Brooks, qui a remporté le prix Pulitzer pour la poésie, Oprah Winfrey, qui est bien sûr réalisatrice et animatrice d'une émission qui a pu transformer le rôle des animateurs-animatrices. Il y a aussi Susan Gaines, qui a été la directrice pendant très longtemps de la Société de Renaissance à l'Université de Chicago. C'est ce genre de personnes. Barbara Gaines, par exemple, qui a créé Chicago Shakespeare Up. C'est ce genre de femmes. Jane Sachs aussi, qui gère une organisation qui s'appelle Projet Anne, qui est une organisation qui facilite et développe des projets pour les écrivains, les acteurs, les poètes, artisans. Donc, c'est ce genre de personnes qui sont représentées dans cette fresque. Et je trouvais que le centre culturel, c'était un endroit convenable pour reconnaître ces femmes qui ont eu ces accomplissements. Si on regarde la fresque et la conception de la fresque, la couleur de ces femmes, c'est parce que cette fresque s'appelle un Forest Rushmore. Il existe une montagne qui s'appelle Mount Rushmore aux États-Unis où on a mis les visages de Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington et Teddy Roosevelt. Donc, c'est quatre présidents américains et c'est fait en pierre. Donc, si on prend cette idée d'un monument au style Rushmore où on peut mettre les visages de ces femmes, sauf que c'est fait plutôt dans un paysage vivant parce que c'est dans des arbres, des grands arbres. Donc, ça crée une sorte de totem, sauf qu'on n'a pas tué l'arbre en le découpant. L'arbre est toujours là et en vie, mais on a mis les femmes les unes au-dessus des autres. Donc, la couleur de ces femmes, c'est la couleur de l'écorce et du bois de ces arbres. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette couleur. Si on le fait dans un arbre, tout le monde va avoir la même couleur parce que la couleur est déterminée en raison de l'intérieur de l'arbre. Bon, ben, je trouvais que ça n'aurait pas été logique parce qu'on n'a pas peint maintrochement non plus. C'est la couleur de la pierre. Donc, je ne trouvais pas que c'était logique d'essayer de changer toutes ces femmes pour qu'elles ne se ressemblent pas, étant donné les circonstances de leur présence. Je ne trouvais pas que c'était logique au niveau conceptuel.
Et donner du sens, c'est ce que vous avez cherché à faire durant tout votre parcours, hein, Kerry James Marshall. Qu'est-ce que vos peintures peuvent rendre visible qu'on ne voit pas, nous, à l'œil nu?
Oh, nothing.
Ben, rien. Si on regarde une image, une photographe, c'est quelque chose. C'est une chose qui est régie par les conventions, les lois, les rapports que nous connaissons déjà. Donc, les gens ne voient pas quelque chose qu'ils ne pourraient pas voir d'autres manières aussi. Donc, quand il s'agit des photos, par exemple, on essaie de faire concentrer le regard sur un sujet donné dans un contexte donné pendant un temps donné. C'est ça le rôle des photos. Donc, je vous montre tout simplement les choses que vous n'allez peut-être pas remarquer si moi je les souligne pas. Ceci ne veut pas dire que ce sont des choses que vous n'allez pas voir si je vous les montre pas.
Comme un grand courant d'air sur France Culture, rendez-vous dans une demi-heure pour la deuxième partie de cette grande table ici, dans la Windy City américaine à Chicago, un an après l'élection de Donald Trump.